France Inter, franceinter.com.
Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. Bonaparte, au lendemain du 18 Brumaire. Mille ans d'histoire. Il était 5 heures du matin, le 9 novembre 1799, le 18 Brumaire, dans le calendrier révolutionnaire, lorsque 3000 hommes des 8e et 9e régiments de dragons et du 21e chasseur de Murat sont sortis de leur caserne. Désobéissant au ministre de la guerre qui les avait consignés dans leur quartier, ils se dirigeaient les uns vers l'actuelle place de la Concorde et les autres aux Tuileries, où les députés du directoire avaient été convoqués d'urgence. Un coup d'État venait de commencer. En 2 jours, il allait renverser un des régimes les plus éphémères et les plus impopulaires de l'histoire de France. Né en 1795, avec la constitution de l'an 3, le directoire n'avait réussi à se maintenir en place que par des coups d'État. En 1797, le 18 Fructidor contre des royalistes, le 22 Floréal 1798 et le 30 Prairial 1799 contre le danger d'un retour des Jacobins au pouvoir. Le coup d'État du 18 Brumaire n'était jamais que le quatrième. Mais celui-ci n'était pas destiné à défendre le directoire, il allait le renverser et porter au pouvoir le plus célèbre de ses généraux, revenu d'Égypte un mois plus tôt, le général Bonaparte.
Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si brillante? Je vous ai laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre! Cette chose ne peut pas durer. Laisse-moi parler. En 3 ans, il le mènerait au despotisme. Mais nous voulons la République. La République assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté publique, de la tolérance politique.
Général, nous applaudissons à ce que vous dites. Mais jurez avec nous obéissance à la Constitution de l'an 3 qui seule peut maintenir la République.
La Constitution! Vous l'avez violé le 18 Fructidor! Vous l'avez violé le 22 Floréal! Vous l'avez violé le 30 Prairial!
Patrice Guénifet, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était Bonaparte tué par les députés du Conseil des 500 au lendemain d'un coup d'État auquel vous venez de consacrer un livre, le 18 Brumaire, l'épilogue de la Révolution française, un livre qui vient d'être publié chez Gallimard. Un coup d'État auquel on fait constamment référence, alors que nous le verrons à l'époque, l'événement est passé presque inaperçu. Et d'ailleurs, vous le dites, le 18 Brumaire, 9 novembre 1799, il ne s'est rien passé. C'est le 19 Brumaire, le 10 novembre, que tout s'est joué. Alors pourquoi aujourd'hui parle-t-on du 18 et non du 19 Brumaire, Patrice Guénifet?
C'est une habitude qui est née de l'événement lui-même, puisque Bonaparte avait tout intérêt à faire parler du 18 plutôt que du 19 Brumaire. D'abord parce que le 19, il s'était trouvé lui-même en difficulté, à un moment où l'issue de l'événement était incertaine. Tandis que le 18, il avait obtenu très facilement la démission du gouvernement de l'époque, du directoire donc. Et surtout, il n'y avait eu absolument aucun incident ni aucune violence encore.
Il n'y a pas eu coup d'État en fait le 18. Tout est légal, tout se fait dans la légalité.
Mais on pourrait dire que d'une certaine façon, le coup d'État commence bel et bien le 18, mais il faut le 19 pour le terminer, et que le premier acte se passe beaucoup mieux que le second. Mmh. Donc pour le vainqueur, il y avait tout bénéfice à faire parler d'un 18 Brumaire, qui était une passation, une translation d'un régime à un autre presque pacifique, plutôt que de dire le coup d'État du 19 Brumaire, ce qui aurait inclus l'expulsion des parlementaires.
Alors vous parlez d'un changement presque pacifique, et c'est vrai, si aujourd'hui le 18 Brumaire, il en est question pour évoquer un coup de force militaire, pour remplacer dans la violence un régime par un autre. À l'époque, il est passé pratiquement inaperçu. Il n'y a pas eu de réaction particulière au 18 et au 19 Brumaire, Patrice Guénifet.
Non. Et d'ailleurs, à l'époque, le coup d'État n'a pas été perçu comme le prototype d'un coup d'État militaire, pour une raison d'ailleurs très objective, c'est que ce coup d'État militaire guerre avait été préparé par des civils et par les principaux personnages de l'État. D'autre part, il n'y a pas eu réellement de grande violence. Et surtout, ce coup d'État n'a été suivi par aucune proscription, ce qui était un grand changement par rapport aux événements antérieurs.
Et surtout, il renverse un régime que les Français n'aimaient plus du tout, qui était devenu très impopulaire, un régime impuissant très souvent, ne serait-ce qu'en raison de sa propre constitution. Le Directoire est né en 1795 avec la constitution de l'an 3. Or, vraiment, c'est une des plus mauvaises constitutions que la France ait jamais eue, Patrice Galifet.
Oui, c'est un avis que je ne partage pas tout à fait. Je pense en effet que les institutions en soi sont rarement un problème, dans la mesure où les constituants s'efforcent de faire la meilleure constitution possible avec les matériaux dont ils disposent. Le vrai problème du directoire sont moins ses institutions, même si elles sont en cause pour une partie, que son personnel dirigeant. C'est-à-dire, le problème du directoire, c'est qu'il est aux mains des révolutionnaires, de ceux qui ont fait la terreur et qui, de ce fait, sont condamnés à garder le pouvoir.
Et qui ont mis un terme quand même à la terreur. Ces gens-là sont les gens qui ont renversé Robespierre en 1794.
Ils ont renversé Robespierre après avoir été eux-mêmes des terroristes. Mmh. Et c'est là qu'est le problème politique majeur. C'est-à-dire qu'il est impossible, il apparaît impossible de finir la Révolution, de sortir de la Révolution avec les hommes qui l'ont faite. Mmh. Et de ce fait, aucune autre constitution, agencée différemment, n'aurait réglé le problème. Mmh.
Il y avait quand même une constitution bizarre, aujourd'hui elle ferait sourire. Il n'y avait pas un, mais cinq chefs d'État, cinq directeurs, c'est ce qui a donné son nom au directoire. Il y avait deux assemblées, parce que ces directeurs étaient nommés par deux assemblées. Le conseil des anciens, l'équivalent un peu du Sénat, c'est lui qui désignait les directeurs. Sur proposition d'une autre assemblée, le conseil des 500, l'équivalent de notre chambre des députés aujourd'hui. Mais aucun de ces deux pouvoirs, ni l'exécutif, c'est-à-dire les directeurs, ni le législatif, le conseil des anciens et le conseil des 500, n'avaient de pouvoir l'un sur l'autre. Et en plus, la situation était un peu bloquée parce que cette constitution était prévue pour ne pas pouvoir être modifiée pendant 9 ans. Si bien que dès qu'il y avait des problèmes, on les résolvait par des coups d'État.
Bon, ce sont des traits d'époque. L'extrême séparation des pouvoirs qui les empêche de s'accorder et de collaborer. L'absence de révision possible, parce qu'on est convaincu à cette époque, il faut bien voir qu'on est au début de l'histoire constitutionnelle, on est convaincu à cette époque qu'on légifère pour les siècles à venir, et enfin le caractère collégial du pouvoir exécutif, qui tient au fait que les Français ont guillotiné le roi, et que le remplacer par un chef d'État unique passait immédiatement, la simple idée passait pour une volonté de rétablissement de la monarchie. D'où le fait qu'ils sont condamnés à instituer plusieurs chefs d'État. Mmh. Et 5 à l'époque, au moment où ça a été fait, en 1795, paraissait un bon compromis entre les versions les plus extrêmes qui prévoyaient jusqu'à 20 de chefs d'État et puis, d'un autre côté, le parti monarchique qui, bien sûr, était favorable au rétablissement d'un roi.
En tout cas, un régime, le directoire, qui est contesté dès sa naissance, d'une part à gauche par les jacobins, les héritiers de Robespierre, et à droite par les royalistes qui rêvent d'une restauration et qui, quelques jours à peine après le vote de la constitution du directoire, le 13 Vendémiaire, 5 octobre 1795, tentait un coup de force contre le régime qui était défendu ce jour-là par Barras et par un général encore inconnu mais qui allait devenir célèbre.
Crois-moi, Barras, pour l'instant ce n'est qu'une simple émeute.
Une simple émeute ? 25 000 royalistes enragés qui marchent sur la Convention avec l'intention de s'emparer des députés et d'assassiner la République, tu appelles ça une simple émeute ?
Quelles sont vos forces ?
Appelle-moi ton nom, citoyen.
Général Bonaparte, actuellement sans commandement.
Ah oui, Bonaparte. Artilleur, c'est ça ? Si le canon arrive, tu reprendras le commandement.
Je te préviens, citoyen. J'ai pour principe d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, alors ne me demande pas de compte sur le sang qui va couler. Si je sors mon épée, je ne la remettrai au fourreau que lorsque l'ordre républicain sera rétabli.
Quel jour sommes-nous ?
Il est minuit. Nous sommes donc le 13 Vendémiaire.
Ta nomination comme chef d'état-major. À toi d'agir maintenant.
Oh ! En position ! Feu !
Et C'était le 13 Vendémiaire en 4, 5 octobre 1795, Bonaparte faisant tirer sur une manifestation royaliste à Paris, la première étape d'un parcours qui est 4 ans plus tard à aller le conduire à la tête de l'État, au sommet du pouvoir. À l'époque, il était encore totalement inconnu, il s'était montré républicain dans la défense de Toulon, mais en réalité, peu de gens en France le connaissaient. Il faudra quand même la campagne d'Italie qui allait juste suivre ce 13 Vendémiaire pour qu'il devienne célèbre, Patrice Gallifet.
Bon, Toulon était sans doute un exploit militaire, mais le nom de Bonaparte n'a pas été retenu à l'époque, ni même prononcé d'ailleurs. Et quand s'offre à lui la chance de Vendémiaire, il est sans emploi. Et c'est, comme dira Barras d'ailleurs, qui est son véritable Pygmalion, c'est un général de guerre civile. Donc il est employé par Barras. La récompense pour son action au 13 Vendémiaire où il a mitraillé les royalistes, c'est d'abord le commandement de l'armée de Paris, qui maintient l'ordre à Paris, puis le commandement de l'armée d'Italie. Et c'est là véritablement où il se révèle non seulement à l'opinion, aux Français, mais aussi à ses propres yeux, c'est-à-dire où il comprend l'étendue de son talent et de sa capacité dans tous les domaines, militaire, politique, diplomatique. Donc avant l'Italie, c'est un autre personnage. Et en Italie, on assiste à un phénomène qui est celui du surgissement du grand homme. Vous savez, comme disait Victor Hugo, les grands hommes ont deux naissances, la première comme homme et la deuxième comme grand homme. Eh bien, Bonaparte, c'est comme ça, sa deuxième naissance, c'est en Italie. Et en Égypte, il confirme les talents qu'il s'est découvert.
Ça, c'est plus tard, 1798-1799, un an et demi. C'est un échec quand même, l'Égypte. L'Italie, oui, c'est la gloire. Il est accueilli triomphalement. En Égypte, ben, c'est pas du tout la gloire.
Non, en Italie, en Égypte, les choses tournent mal assez rapidement. Mais il a toujours eu le don de faire sa propre publicité. Et il saura très bien la faire après l'Égypte, en transformant un échec militaire et politique réel en triomphe militaire et politique. Et il aura la chance d'abord que son successeur Kléber soit assassiné et que la nouvelle de l'échec arrive après que lui-même aura pris le pouvoir en France.
Alors justement, et à ce moment-là, il revient en France en octobre, un mois avant le coup d'État. Mais un coup d'État, je l'ai appris en vous lisant, Patrice Gallifet, qui va se faire à son profit, mais qui n'était pas prévu, organisé, par lui. Il y a un homme qui joue un rôle essentiel, c'est un des directeurs qui lui-même en a assez de ce directoire qui, selon lui, ne fonctionne pas. C'est un personnage très célèbre du début de la Révolution française, c'est Sieyès. Sieyès est directeur et il pense changer la constitution du directoire et il cherche une épée. D'ailleurs, ce n'est pas Bonaparte auquel il pense en premier, c'est un certain général Joubert.
Oui, Sieyès a eu le privilège d'être là au commencement de la Révolution. Il en est en quelque sorte l'inventeur, c'est lui qui sonne les trois coups du lever de rideau et il en sera le fossoyeur en 99. Et c'est effectivement lui qui prépare le plan du coup d'État, qui réunit les moyens, mais il songe à un général beaucoup plus maniable que Bonaparte, en l'occurrence Joubert, qui va lui faire défaut en étant malencontreusement tué en Italie. Et Bonaparte revenant, Bonaparte s'impose comme cette épée, mais une épée bien sûr beaucoup moins maniable que ne l'aurait été Joubert.
Bonaparte, donc, qui, dès son retour d'Égypte, est tenu au courant de ses préparatifs de coup d'État par son frère Lucien, qui était président du Conseil des 500.
La partie qu'on te propose est audacieuse, Napoléon, mais elle est jouable. Nous nous basons sur deux choses. La première, c'est le dégoût qu'éprouve le peuple pour le gouvernement actuel.
La deuxième, c'est que pour ce même peuple, tu fais figure de héros.
Tu veux renverser le directoire ?
Une chiquenaude suffira.
Tu es l'homme que toute la France attend depuis longtemps.
La France est dans un tel état de faiblesse qu'elle ne supportera pas une nouvelle révolution. Les royalistes en profiteraient.
Et qui parle d'une révolution ?
Les choses se font dans la plus stricte légalité. Il suffira de demander aux députés qu'ils suppriment le directoire et nomment à la place un nouveau gouvernement, composé de trois hommes irréprochables, Sieyès, Roger Ducos et toi.
C'est possible si on réunit les députés des deux chambres dans un lieu écarté où l'armée pourra faire pression sur eux sans pour autant déclencher une émeute dans la capitale.
Voilà le dieu qui nous manquait. Et avec Murat à la tête des troupes, la situation ne peut pas nous échapper.
Que dirais-tu du château de Saint-Cloud ? Ce n'est pas trop près de Paris, et c'est très contrôlable.
Saint-Cloud me convient parfaitement.
Doit-on conclure que tu approuves cette petite affaire dont nous venons de parler ?
Ce que tu appelles pudiquement une petite affaire, mon cher Joseph, n'est rien d'autre qu'un coup d'État.
Et un coup coup d'État qui se prépare pratiquement au grand jour, Patrice Gagnifet. Il ne surprendra pratiquement personne, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant, qui le préparent, qui sont dans le coup. Il y a, nous l'avons dit, Sieyès, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont marcher avec Bonaparte ou avec Sieyès.
Oui.
Et qui sont haut placés.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de consentement de toute la classe politique au renversement du régime. Tout le problème étant de savoir qui va être dans le bon wagon,
dans le bon camp,
dans le bon camp, et donc bénéficier du renversement du régime. Et finalement, ce coup d'État se prépare au grand jour, mais ce qui reste en coulisses, secret, caché, ce sont les tractations avec les différentes factions politiques pour savoir qui va être le bénéficiaire du coup d'État et qui va marcher avec Bonaparte.
Parce qu'il y a deux des cinq directeurs, il y a donc Sieyès, il y a également Roger Ducos, il y a le frère de Bonaparte qui n'est pas n'importe qui dans le directoire puisque c'est le président du Conseil des 500, il y a l'armée également avec Murat, il y a également des ministres, il y a Talleyrand et Fouché, ça fait beaucoup de monde tout ça.
Ça fait beaucoup de monde, ça fait un quasi-gouvernement au grand complet. Qui est partisan, mais plus personne ne croit. Ce qu'il faut bien voir, c'est que plus personne ne croyait à l'avenir de ce régime. Tout le monde s'attendait à sa chute imminente. Simplement, tout le monde n'était pas d'accord sur les conclusions qu'il faudrait tirer du coup d'État et sur la politique qu'il faudrait conduire ensuite.
Alors, un coup d'État qui va se faire en deux temps, en deux actes, en deux jours, le premier étant le 18 Brumaire, ça se passe à Paris, et c'est aux Tuileries. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 Brumaire, Patrice Gagnifet?
Alors, d'abord...
On convoque d'abord les députés.
Donc d'abord, on convoque les députés très tôt le matin pour une séance, au cours de laquelle, séance brève, au cours de laquelle ils doivent donner le commandement des troupes à Bonaparte, et voter le transfert du Parlement à Saint-Cloud, hors de Paris.
Alors la raison, il faut le mentionner, on leur fait peur, on leur dit, attention, il va y avoir un coup de force jacobin.
On leur annonce, c'est une vieille recette révolutionnaire, on leur annonce l'imminence d'un coup de force, en l'espèce jacobin. Auparavant, dans l'histoire de la Révolution, très souvent, on a perpétré des coups d'État en les justifiant par l'imminence d'une insurrection populaire. Et donc, ou contre-révolutionnaire. Donc, on obtient très facilement le vote de ces députés qui transfèrent le Parlement à Saint-Cloud et qui donnent le commandement à Bonaparte. Et l'acte 1 s'arrête là, théoriquement. Parallèlement, dans la coulisse...
Et qu'on convoque donc à Saint-Cloud le lendemain.
Le lendemain. Et donc, les conjurés s'efforcent surtout, ensuite, au cours de la journée, d'obtenir la démission de la majorité des membres de l'exécutif, donc 3 sur 5. Deux d'entre eux sont des conjurés eux-mêmes.
Donc Sieyès et Roger Ducos.
Et Sieyès.
Il y en a un qui se fait tirer l'oreille. Barras.
Barras était lui aussi au courant des préparatifs du coup d'État. Barras a pensé jusqu'au dernier moment qu'il en serait le bénéficiaire, qu'il marcherait avec Bonaparte. Simplement, l'accord n'a pas pu se faire. Et donc, dans la journée, Bonaparte obtient la démission de Barras, soit spontanée, soit achetée. On n'a jamais su, et très vraisemblablement, on ne saura jamais.
Oui. Donc, démission dans la soirée du 18 et, au 19, et puis donc tout semble rouler très bien, tout semble bien marcher, jusqu'à ce que le lendemain, donc, ces députés, les anciens et les 500, se réunissent à Saint-Cloud, et là, en revanche, c'est, semble-t-il, en tout cas au début, un échec lorsque Bonaparte entre au Conseil des 500.
Oui, c'est-à-dire que...
Là, on est le 19.
On est le 19. Le problème d'un coup d'État, c'est qu'il faut le faire vite. Et rien que l'idée d'étaler le coup d'État sur deux jours était une faute tactique. Parce que ça laissait l'espace du premier jour au deuxième, laissait aux vaincus, à ceux qui sentaient qu'ils allaient être parmi les vaincus, le temps de se concerter pour organiser la résistance. Et là, j'ai l'explication principale des difficultés du 19.
Alors, qu'est-ce qui se passe, justement? Bonaparte rentre. Hein. Qu'est-ce qui doit se passer? En fait, il doit simplement prêter serment à la République, je ne sais pas. Et puis surtout, on a demandé aux députés de voter, justement, une nouvelle constitution.
Mais trois des cinq directeurs ayant démissionné dans la nuit, théoriquement, les députés doivent en prendre acte et nommer une commission pour aviser aux moyens de sauver la patrie. C'est-à-dire, en clair, de proposer de nouvelles institutions. Et théoriquement, là aussi, la séance aurait dû être très courte, puisque les députés constatant la disparition du gouvernement, la faillite des institutions, devait voter un plan qui avait été préparé, bien sûr, avant une nouvelle constitution. Or, les opposants qui ont eu le temps de se concerter dans la nuit décident de s'opposer au changement de régime, s'opposer mollement d'ailleurs, puisque leur résistance n'ira jamais jusqu'à l'emploi de la force ou l'appel au peuple, mais néanmoins résister. Et ils vont mettre Bonaparte en grande difficulté au cours de cette journée.
Il rentre, il se fait huer, on le menace, ce qui est très grave, c'est ce dont on n'avait pas menacé, mais donc on avait appliqué pour Robespierre de le mettre hors la loi. On aurait même tenté de le tuer à coups de poignard.
Oui, ça c'est une invention de Bonaparte lui-même, puisqu'il n'y a pas eu de poignard brandi ce jour-là, mais des coups de poing. Quand il est entré dans le Conseil des 500, il a été assailli physiquement. Donc il y a eu des échanges de coups de poing et le seul blessé a été un soldat dont la manche a été arrachée.
En tout cas, il dramatise, il sort essoufflé. Le coup d'État semble avoir échoué et il sort à l'extérieur pour retrouver son frère Lucien et Murat.
Ils ont essayé de me poignarder.
Mais non, ils ont essayé de t'intimider.
Non. Non, ils ont vraiment cherché à me tuer.
Nous avons échoué. Nous sommes perdus.
Il faut partir d'ici.
Vous n'avez rien à craindre. Murat est là, dehors, avec toutes ses troupes.
Murat, bon Dieu, Murat. J'avais presque oublié Murat.
Soldats! Par le droit que m'en donne le décret promulgué hier, le 18 Brumaire, je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous ordonne.
On connaît notre devoir.
En avant!
Murat aurait même dit « Foutez-moi tous ces gens-là dehors hein. !» Donc l'armée intervient, elle entre au scandale, elle entre au Conseil des 500, à l'Assemblée. Elle va en chasser les députés qui fichent le camp, certains même par la fenêtre, tellement ils avaient peur. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Il y a eu coup de force militaire, il n'y a pas eu d'effusion de sang, Patrice Guélif.
Non, il n'y a eu ni effusion de sang sur le moment, ni effusion de sang après. Alors que la plupart des coups d'État révolutionnaires, de l'époque révolutionnaire, non seulement étaient violents dans l'opération elle-même, mais étaient violents dans les suites, dans les jours qui suivaient, par des proscriptions, etc. Là, il n'y a eu ni blessés, ni morts, ni proscrits. C'était une première dans l'histoire de la Révolution française, qui, sur le coup, a déconcerté les gens, mais qui très vite s'est tournée en une approbation de l'opération, qui de ce fait n'a jamais été réellement perçue comme un coup d'État. Et en tout cas comme un prototype du coup d'État.
Alors une opération, un coup d'État auquel on veut donner une apparence de légalité, à peine Murat et ses soldats ont-ils chassé les députés du Conseil des 500, qu'on va essayer d'en rattraper quelques-uns pour tout simplement pour qu'ils votent eux-mêmes la fin du directoire.
Ben, on est en France, donc une fois que les députés avaient été chassés, ils ont été mangés, parce que l'heure était venue. Et donc, on en a récupéré quelques dizaines dans les cafés alentour, autour du château de Saint-Cloud, qu'on a réunis pour une séance extraordinaire, nocturne, qui a voté non seulement la disparition du directoire, mais les nouvelles institutions.
Les députés ont dissous le directoire. Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Seyès et Roger Ducos. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Le décret prend effet immédiatement. Officier, faites présenter les armes au consul de la République.
Présentez vos armes.
Vive Bonaparte !
Bonaparte qui deviendra donc premier consul, première étape d'un parcours qui va le conduire jusqu'à l'établissement de l'Empire 4 ans plus tard. Ce n'est pas, on l'a entendu, la fin de la République. Ils sont consuls de la République. C'est quand même la fin de la Révolution, Patrice Guénifet. Le sous-titre de votre livre, c'est l'épilogue de la Révolution française.
C'est la fin de l'événement révolutionnaire parce que c'est la fin de la guerre civile révolutionnaire qui a commencé en 1789. Mais en même temps, ce n'est pas la fin de la Révolution parce que ce nouveau régime qui succède au directoire conserve et garantit toutes les conquêtes de la Révolution. Les biens nationaux, l'égalité civile, le règne de la loi, etc. Donc de ce point de vue, il y a une continuité par rapport à la Révolution, mais en même temps une rupture dans les formes politiques. Parce que Bonaparte invente une nouvelle formule politique qu'on appellerait aujourd'hui, on dirait, c'est une monarchie républicaine, dès le lendemain du coup d'État de Brumaire.
Le consulat.
Voilà, le consulat. Et l'Empire, d'une certaine façon, restera encore républicain. Mmh. Et de ce point de vue, ça, c'est nouveau. Parce que Bonaparte réussit à faire ce que les révolutionnaires n'ont pas réussi à faire, qui était de trouver un régime de remplacement à la monarchie.
Alors ça, c'est quand même aussi, le 18 Brumaire, la naissance d'un modèle qui allait inspirer d'autres coups d'État. Vous le rappelez, à commencer par celui du neveu de Napoléon Ier, c'est-à-dire Napoléon III, un coup d'État en décembre 51 qui, lui, a fait couler le sang. Et du coup, on se méfie, on parle toujours du 18 Brumaire, le plus sanglant, ça a été celui de 1851. D'ailleurs, c'est de cette époque et du 18 Brumaire que date l'interdiction faite à tous les chefs d'État de la Troisième République, ça a peut-être changé d'ailleurs ces jours-ci, de la Troisième, de la Quatrième et de la Cinquième République, d'entrer à l'Assemblée, Patrice Galifet.
Et oui, parce
ça
que
a hanté les gens, ce coup d'État du 18 Brumaire.
Le souvenir du chef de l'État pénétrant dans le Parlement avait laissé de mauvais souvenirs rétrospectivement. Même si, en l'occurrence, le Second Empire a laissé de plus mauvais souvenirs que le Premier, et en tout cas le Consulat. Parce que si Brumaire a inspiré le coup d'État du neveu, ces deux coups d'État ont été diamétralement opposés, puisque le premier est sans violence et le second est un coup d'État violent.
Alors les deux coups d'État qui sont une véritable répétition de Brumaire, dites-vous, c'est Mussolini en 22, il y a eu menace d'une marche sur Rome qui n'a pas eu lieu, ça c'est Malaparte qui le disait dans un livre technique du coup d'État, et puis alors, plus extraordinaire, vous parlez de De Gaulle en 58, vous dites c'est le Brumaire parfait lorsqu'en 58, il utilise la menace d'une opération militaire pour revenir au pouvoir, quand même.
Oui, parce que De Gaulle n'a pas eu à affronter un 19 Brumaire. Il s'est arrêté au 18.
La couture disait même, c'est un 17 Brumaire.
Un 17 Brumaire, ce qui était une formule d'ailleurs très juste. C'est un coup d'État qui n'a pas besoin d'aller jusqu'au coup d'État. Mais dans le principe, effectivement, il y a une filiation du 18 Brumaire au coup d'État de mai 58. Même situation, c'est des situations comparables, et la même idée de renverser parlementairement le régime parlementaire pour lui substituer des institutions qui fonctionnent mieux. Et de ce point de vue, De Gaulle est effectivement l'héritier de Bonaparte. L'héritier heureux de Bonaparte.
Et des 18
Brumaire. Même si la suite sera très différente.
Merci Patrice Gagnifet. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le 18 Brumaire, l'épilogue de la Révolution française, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Les Journées qui ont fait la France, une excellente collection qui a été rétablie par Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Napoléon de Sacha Guitry, disponible en DVD chez René Château Vidéo, et Napoléon d'Yves Simoneau, édité par France Télévisions. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Arnaud Caillé et Ludovic Asselot, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, retour au 20e et au 21e siècle avec l'altermondialisme.